Bonjour Alain Bergerat, historien, cofondateur de Nantes Histoire, cofondateur des Giboulées de Goulaine, est intervenu à Nantes dans le cadre de l'UMA Café sur le thème « Le Front Populaire est-il né à Nantes ?» comme date repère celle du 24 octobre 1934. On est dans un lieu historique de fabrication de biscuits. On se serait déplacé un petit peu plus loin du côté de Doulon. On serait dans un autre lieu historique.
Oui. Qui a disparu, mais effectivement on n'est pas loin de l'ancienne salle du Tourbillon, où Thorez est venu lancer, dit-on, le mot d'ordre de Front Populaire. En fait, c'est surtout un appel aux radicaux, puisque je crois que le mot Front Populaire a été avancé avant dans un meeting à Paris, je crois que c'est le 11 octobre ou quelque chose comme ça, enfin quelques jours avant, salle Bullier. Donc Nantes n'a pas eu la primeur du mot d'ordre Front Populaire, mais par contre il est beaucoup plus explicité dans le discours de Thorez à Nantes, qui s'est déroulé la veille donc du congrès du Parti Radical. C'est pas donc un hasard si Thorez est venu à Nantes pour lancer, on peut le dire, hein, le Front Populaire, parce que la grande nouveauté c'est quand même d'élargir ce front jusqu'aux classes moyennes et jusqu'au Parti Radical, qui à l'époque était un peu le pivot de la vie politique française, et n'était pas spécialement, enfin, ni gauche ni droite, ça dépend comment on analyse les choses. Et puis, à l'intérieur même du Parti Radical, il y avait des mouvements divergents. Il y en a certains qui penchaient plus à gauche et d'autres qui étaient plus pour l'Union nationale, qui penchaient plus à droite. Donc le fait de venir à Nantes pour faire un appel direct au Parti Radical, c'était quand même extrêmement nouveau. C'est ça qui est surprenant quand on fait l'histoire de cette période. L'idée de cesser en quelque sorte les attaques virulentes contre le Parti Socialiste de la part du Parti Communiste et contre le Parti Communiste de la part du Parti Socialiste, parce que c'était vrai dans les deux sens, avec une virulence qu'on a de la peine à imaginer aujourd'hui. Déjà c'était un tournant, je dirais presque à 180 degrés, dans la politique des deux partis, et surtout du Parti communiste, quoi, parce que c'est lui qui a quand même, en grande partie, été à l'origine de ce revirement, de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle possibilité pour la gauche de gouverner. Parce que, surprenant aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, les élections de 1932, les dernières élections législatives, donc la chambre issue de ces élections, était une chambre à majorité de gauche, si on compte les radicaux comme étant à gauche. Mais socialistes et radicaux, déjà, n'avaient pas pu s'entendre pour former un gouvernement. Les communistes, j'en parle pas, parce qu'ils étaient à l'époque très peu nombreux. Je ne me rappelle plus, il y a 7-8 députés communistes à peu près. Le Parti communiste est dans sa plus basse proportion d'élus, nombre de voix, nombre d'adhérents. Ils sont à peu près 30 000 adhérents pour toute la France vers 1932. Donc c'est vraiment l'étiage parfait, je dirais. Et on a de la peine à l'imaginer, parce qu'on sait que le Front Populaire a entraîné un changement énorme, et qu'un gouvernement de gauche, maintenant, ça veut dire, enfin maintenant, à partir de cette date, c'est autre chose que ce qu'on appelait avant des cartels, puisqu'il y avait quand même cette référence au cartel des gauches de 1924. On parle d'ailleurs des fois de nouveaux cartels, parce que les socialistes, à défaut de participer au gouvernement qui était essentiellement dirigé par les radicaux, mais je ne dis pas quel est le gouvernement, parce que je crois qu'il y en a eu 11 en 15 mois ou un truc comme ça, il y avait une cascade de gouvernements. Donc les socialistes soutenaient, c'est pour ça qu'on parle des fois en histoire de néo-cartel. Bon, le mot n'a pas tellement de succès aujourd'hui dans les livres d'histoire, je ne crois pas, mais c'était l'expression qu'on employait à l'époque. Donc le néo-cartel, on a de la peine aujourd'hui à voir comment il se situe, de le classer à gauche, c'est un peu ambigu. Alors qu'avec ce mot d'ordre de Front Populaire qui est lancé donc à Nantes, si on veut, mais qui a été repris, hein, s'il n'y avait eu que Nantes, ça n'aurait pas servi à grand-chose, ce nouveau mot d'ordre change radicalement la situation.
En cœur, amis, chantons la victoire du Front Populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus, par sur la vraie République.
Alors, moi, je me suis posé la question aussi, est-ce qu'il y a une spécificité nantaise ? Oui, il y a une spécificité, mais la spécificité, c'est l'insigne faiblesse du communisme dans le département, un petit peu moins à Nantes que dans le reste du département, mais au maximum, on peut penser à peu près à 200 adhérents pour le Parti communiste, et son poids électoral est même tellement faible qu'aux élections municipales de 35, donc ça c'est après, donc quelques mois après l'appel de Thorez à Doulon, aux élections de 35, qui sont les élections du municipal, hein, pas les élections législatives, qui sont les premières élections à voir la victoire des socialistes à Nantes, puisque c'est en 35 que les socialistes ont été élus pour la première fois à la mairie de Nantes. Entre les deux tours, les socialistes ont pu refuser les voix du Parti communiste, ils n'en avaient pas besoin. Elles étaient si peu nombreuses que de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Ça n'a pas fait un bruit énorme, alors que de la part des socialistes, c'était quand même un peu une rupture des accords de Front populaire. Il y avait déjà eu des meetings communs qui avaient amené beaucoup de foule. Il y avait un élan populaire. Le Parti communiste était déjà en train de grimper au niveau des adhérents. Et en 35, il n'y a pas eu d'accord, contrairement à la plupart des villes. Il faudrait voir, faire une étude un peu plus poussée. Mais il y a certainement très peu de villes où il y a eu un désaccord entre communistes et socialistes sur le plan municipal. Alors par contre, je pense qu'en 1935, le Front populaire a quand même fonctionné dans le sens où les radicaux ont apporté leur voix. Et des radicaux, enfin le plus connu à Nantes, enfin du moins il a été connu par son action politique ultérieure, c'est André Maurice. A quand même appelé à voter Front populaire, ce qui peut paraître un peu surprenant quand on connaît son histoire ultérieure. Donc les communistes étaient si peu nombreux à Nantes qu'ils sont encore un petit peu sur le bord de la route, sauf sur le plan syndical, où là, malgré leur nombre très faible aussi, les militants de la CGTU, je pense en particulier à Gaston Jacquet, Gaudin et quelques autres, avaient une telle aura dans leur milieu qu'ils ont eu des responsabilités dans la CGT quand elle s'est réunifiée fin 35. Donc c'est un peu ambigu Nantes. Par certains côtés, Nantes est dans le mouvement. Par certains côtés, si on étudie un peu en détail, on s'aperçoit même qu'elle précède le mouvement. Je pense en particulier après la fameuse journée du 6 février, qui a conduit à une réaction et à une certaine unité qui a été à la base, en quelque sorte, de cette émergence de l'idée de Front populaire. À Paris, il faut attendre le 9, et encore, le 9 c'est la manifestation communiste, où il y a eu des morts à Paris. Ensuite c'est le 12, c'est-à-dire le jour de la journée qui était organisée au départ par la CGT, à laquelle se sont ralliés les socialistes et les communistes, dans deux lieux séparés, mais qui se sont regroupés très vite dans la manifestation. C'est-à-dire en fait c'est la base qui a imposé en quelque sorte cette union, c'est ça qui me paraît le plus évident dans cette histoire du Front populaire, enfin des débuts du Front populaire. Et bien contrairement à Paris, où ça c'est bien connu, c'est dans tous les livres d'histoire, à Nantes, dès le 8, il y a eu une manifestation unitaire entre, je ne dirais pas le Parti communiste, mais au moins la CGTU et la CGT. Mais ce n'est pas pour ça que Thorez a choisi Nantes. Il a choisi Nantes tout simplement parce qu'il y avait le congrès radical le lendemain.
Petit clin d'œil, nous sommes le 6 février aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas fait attention, mais c'est pas par hasard, hein, je crois, si on a fait cette conférence le 6 février. Mais c'est vrai que le point de départ dans tous les livres, quand on fait l'histoire du Front populaire, on part du 6 février. Et je crois que là aussi, le 6 février, on le sait, dans tous les livres d'histoire, c'est présenté comme la journée des ligues, ligues qu'on considérait comme fascisantes en France, parce qu'il y avait quand même un réel danger fasciste. N'oublions pas que Hitler avait pris le pouvoir légalement, entre guillemets, un an auparavant. Donc le danger fasciste, c'était quand même énorme. Et encore, on n'a peut-être pas cru tout ce que Hitler avait prévu dans Mein Kampf, hein, parce que si la suite de l'histoire avait été connue, peut-être les réactions auraient été différentes. Mais il y avait un réel danger fasciste. Alors on peut faire ensuite l'analyse un peu plus fine des ligues. Il y en a, sont-elles fascistes, sont-elles uniquement conservatrices? Les Croix de Feu, par exemple, qui sont dans le mouvement, c'est difficile de les classer comme fascistes. On sait qu'elles sont nationalistes et que pendant la guerre, elles n'ont pas vraiment marché dans la collaboration. Mais il y avait un réel danger fasciste. En tout cas, les Français le considéraient comme tel. Et d'ailleurs, ce qui a donné l'élan au Front populaire, c'est la création du comité de vigilance antifasciste. Hein. Et à Nantes aussi. Hein. À Nantes, c'est par le biais de ce comité de vigilance que se sont réunis les socialistes, les communistes et d'autres familles de la gauche, quoi, qui tantôt étaient communistes, ce qui était le cas dans la majorité des cas, enfin en tout cas pour les plus importantes à Paris, mais ce qui était certainement moins vrai à Nantes. Donc Nantes pourrait apparaître aussi un petit peu comme un exemple pour le Front populaire. En fait, non, hein, c'est simplement le hasard qui fait que l'appel a été lancé à Nantes. D'ailleurs, je me suis posé la question, parce que c'était la première question à laquelle je voulais répondre, compte tenu du titre de la conférence. Le Front populaire est-il né à Nantes? Honnêtement, il n'est pas né à Nantes. Hein. Il est né dans les discussions des communistes, dans les tractations, les rapports de force aussi, entre différentes tendances qui pouvaient peut-être... Enfin, tendance, on ne parle pas de tendance, mais les hommes politiques qui étaient à la tête du Parti communiste à l'époque, qui se disputaient aussi la tête du Parti communiste, n'avaient pas les mêmes analyses. Et ce qui est assez curieux, c'est de voir que Thorez, jusqu'à... On peut dire jusqu'à l'été 36, avait encore des mots très durs à l'égard des socialistes. Son ralliement à l'idée de Front populaire, ou du moins, on peut peut-être penser que c'est lui qui a lancé ce mot d'ordre, qu'il est né, qu'il a été germé dans l'esprit de Thorez, ce qui me paraît un petit peu douteux, et les historiens en doutent un peu compte tenu de ce qu'ils ont appris dans les archives qui ont été libérées en quelque sorte par Moscou, puisqu'avant on n'avait pas ces archives, et les historiens n'avaient pas accès à des archives assez importantes. Maintenant, la plupart des historiens sont quand même d'accord pour penser que c'est plus venu au départ d'une initiative de l'Internationale communiste que du Parti communiste français. Mais ce qui est curieux et ce qui crée une certaine ambiguïté, c'est que le Parti communiste et Thorez lui-même se sont tellement emparés de cette idée, ils l'ont poussée beaucoup plus loin que ce que souhaitait l'Internationale communiste. Au point que le jour où il venait à Nantes pour prononcer son discours, Thorez a été quelque peu, arrêté, ou du moins, il y a eu une tentative de l'empêcher de venir prononcer ce discours à Nantes. L'International a envoyé des émissaires, et en particulier Togliatti, pour lui dire « non, on ne prononce pas, va pas jusqu'à... » On n'envisageait pas d'aller jusqu'aux radicaux, quoi. Ça a été plus loin. Et Thorez a dit « ben non, j'ai écrit mon discours, il est venu à Nantes malgré... » les mises en garde de l'International. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le Parti communiste n'était qu'une section de l'International. Et donc, le Parti communiste ne pouvait pas avoir une politique indépendante de l'International communiste. Chose qui n'a pas été retenue un peu dans l'histoire parce que la suite est différente. Mais à l'époque, c'est certain que c'est l'alignement sur l'URSS, puisque c'est l'URSS qui dominait l'International communiste, était la règle du jeu. Le Parti communiste ne pouvait pas prendre une initiative sans avoir l'aval de l'International communiste. Et depuis plusieurs années, l'envoyé de l'International communiste pour surveiller ou pour guider, on peut employer les termes qu'on veut, pour guider le Parti communiste français, c'était Hugen Fried qui a été en quelque sorte l'alter ego de Thorez. Enfin, c'est une espèce de couple qui dirigeait le Parti communiste à partir de 1935 à peu près, c'est-à-dire quand Thorez a suffisamment assis son autorité sur le Parti communiste pour en être le chef, je dirais, incontesté, ce qu'il est resté à peu près jusqu'à sa mort, quoi. Donc cette question-là, telle qu'elle est posée, c'est-à-dire le Front populaire est-il né à Nantes, réfléchir à toutes ces conditions, ça pose des tas de questions. Il n'y a pas seulement le Front populaire, il y a la politique du Parti communiste. Quand le Parti communiste s'est-il affranchi de la tutelle de l'International? Il y a des questions importantes pour les historiens. Parce que pendant très longtemps, on a essayé de gommer l'importance de l'International, parce que compte tenu de la révélation des crimes de Staline et de ce qui se passait en URSS, c'est effectivement quelque peu embarrassant de rappeler cette tutelle, de rappeler cette sorte de lien organique entre le Parti communiste et l'International. Et le Front populaire a permis déjà une certaine évolution, mais il faudra attendre quand même assez longtemps. Même il faut attendre presque la 53, enfin la mort de Staline et la révélation des crimes de Staline pour que les choses puissent changer. Et elles ne sont pas forcément changées non plus du jour au lendemain, parce que ce lien avec Moscou a toujours pesé sur l'histoire du Parti communiste.
Alain Bergerat, agrégé d'histoire, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine.
y a un exemple sur la période qui est quand même particulièrement intéressant, c'est celui de Doriot. Parce que le Parti communiste avait adopté, mais avec peut-être quelques réticences, mais pas tellement de réticences, la tactique imposée par l'international, qui était la tactique, la stratégie classe contre classe. On peut dire une stratégie très sectaire, qui a amené un affaiblissement assez important du Parti communiste, en particulier aux élections de 1932. Et l'international, à plusieurs reprises, est intervenu pour obliger le Parti communiste français à choisir une voie plus claire, donc à adopter plus nettement cette ligne classe contre classe. Et Torres faisait partie du groupe dirigeant, sans être encore le secrétaire, il n'y avait pas vraiment de secrétaire officiel, même si Torres était peut-être déjà le membre le plus influent de ce secrétariat collectif. Mais il y avait aussi, dans ce secrétariat collectif, Jacques Doriot, qui avait une très grande popularité dans le Parti communiste, qui était maire de Saint-Denis, et qui, lui, avant Torres et avant l'international, voulait, dès 1933, une alliance avec les socialistes pour combattre le fascisme. Ce qui peut nous paraître étonnant quand on connaît la fin de l'histoire et qu'on sait que Doriot a fini ses jours auprès d'Hitler et en se battant contre l'Union soviétique. Donc ça, c'est étonnant. Mais pour revenir à l'époque qui nous intéresse, en 1933, Doriot préconise cette alliance avec le Parti socialiste, une alliance d'ailleurs qui réalisera plus ou moins à la base à Saint-Denis, alors que Torres est tout à fait hostile jusqu'à 1934, c'est-à-dire jusqu'au moment où il y a ce revirement et il préconise l'alliance avec les socialistes. Alors derrière cette situation qui peut paraître un peu bizarre, il y a un conflit, il faut reconnaître, on s'en aperçoit en lisant avec le recul de l'histoire, l'histoire du Parti communiste à ce moment-là. Il y a un conflit entre Doriot et Torres pour assumer, je dirais, la direction, devenir, on peut dire, presque le chef du Parti communiste. Et ces divergences étaient tellement vives que l'international a convoqué à la fois Torres et Doriot pour s'expliquer à Moscou. Doriot a refusé de venir. Alors la première fois, il a prétexté des élections municipales qu'il avait d'ailleurs provoquées pour montrer qu'il était élu triomphalement à Saint-Denis. Mais donc il n'est pas venu. Torres y a été tout seul. Il y a eu une nouvelle convocation. Doriot n'est toujours pas venu, à tel point qu'il s'est en quelque sorte coupé lui-même de l'international, ce qui conduira assez vite à son exclusion du Parti communiste. Mais ce qui est assez amusant, c'est de réaliser qu'avec à un an de distance, il y a presque une inversion, c'est-à-dire c'est le mot d'ordre que Doriot défendait d'abord, qui est devenu le mot d'ordre de Torres. Mais il n'y avait pas que Doriot, il y avait quelqu'un comme Renaud Jean qui avait également préconisé dès 1933 l'alliance entre socialistes et communistes, ce front antifasciste, sans aller jusqu'aux radicaux, mais au moins déjà une réaction des deux partis de gauche. Donc l'international, je ne pense pas qu'elle est, enfin du moins les historiens ne pensent pas réellement qu'elle a été influencée au départ par Torres. C'est quand Dimitrov, le célèbre militant qui avait ridiculisé les nazis après avoir eu un procès puisqu'on l'accusait de l'incendie du Reichstag, Dimitrov donc a pris une certaine influence, une certaine importance à l'international. Il a été certainement le premier, ou en tout cas un de ceux qui ont pensé à cette unité antifasciste, à cette nécessité d'une union de la gauche contre le fascisme, alors que le Parti communiste allemand, qui était beaucoup plus fort que le Parti communiste français, n'avait pas su la faire et s'était retrouvé finalement exclu de la vie politique. Enfin, ça a été une défaite catastrophique pour le communisme allemand. Donc pour revenir à Dimitrov, il s'est battu pour ce mot d'ordre. Et il est venu en parler avec Torres, avec Fried, qui était déjà là, que les Français connaissaient pas, n'ont pas tellement connu comme délégué de l'international, parce qu'il a pris un pseudo français, Clément. Il s'est complètement intégré dans la vie française, au point que les gens le considéraient comme un militant français. Et jusqu'à la guerre, puisqu'il a été assassiné par la Gestapo pendant la guerre, Fried était considéré comme un dirigeant naturel du Parti communiste français, ce qui est souvent oublié par la mémoire officielle, je dirais entre guillemets, enfin la mémoire la plus courante du Parti communiste. Et donc Dimitrov est venu convaincre les Français, et visiblement Thorez, ce n'est pas pour minimiser son rôle, mais Thorez a été convaincu par Dimitrov, et il a été tout de suite le défenseur de cette nouvelle idée, alors que quelques semaines auparavant, il disait pique-pend des socialistes, parce que pour lui, il n'y avait qu'une chance, c'était la révolution, pas question de s'allier avec... Enfin, j'ai des citations là, mais les injures contre les socialistes sont énormes. Hein. Les socialistes sont considérés comme les complices de la droite et même du fascisme. On disait à l'époque, souvent dans le Parti communiste, les social-fascistes. Ils étaient traités de social-fascistes. Il y avait une espèce d'amalgame entre la droite la plus conservatrice, les ligues et le Parti socialiste. Ça allait jusqu'au Parti socialiste. Et bien sûr, le Parti radical était aussi englobé dans ces injures de complicité, ces accusations de complicité avec le fascisme. Donc Thorez, peut-être aussi parce qu'il avait besoin d'assurer sa domination sur le Parti communiste français, c'est-à-dire que ça a été révélé par les derniers travaux sur Thorez, la biographie de Ciro ou le livre d'Annette Wieviorka qui s'appelle Maurice et Jeannette, là où elle raconte... un petit peu cette ascension politique de Thorez, il y avait besoin de donner une espèce de chef emblématique, un peu à l'image de ce que Staline était pour l'Union soviétique. L'international était persuadé que c'était la façon la plus efficace d'assurer la propagation du communisme. Et c'était l'esprit de l'époque aussi, même si ça reste en partie vrai, puisqu'on s'aperçoit que la personnalisation des partis politiques existe toujours, je dirais même peut-être qu'elle s'est accentuée depuis cette époque. Donc Thorez avait aussi sans doute envie d'être ce personnage emblématique. Bon, on peut parler d'ambition, mais tous les hommes politiques ont de l'ambition. Hein. Il n'était pas le seul à avoir une certaine ambition. Mais petit à petit, il est devenu l'homme de référence, alors que jusqu'à présent, c'était Kachin, qui depuis le congrès de Tours, Kachin qui est une personnalité historique de l'ancien Parti socialiste, donc qui faisait le lien entre le socialisme d'avant la guerre de 14 et le socialisme devenu communiste, donc après la guerre 14-18. Donc Thorez s'est engouffré en quelque sorte dans ce créneau, et il a été construit aussi comme leader du communisme français, non seulement du communisme français, il est devenu à ce moment-là une des personnalités les plus influentes de l'international, puisqu'on a considéré que c'était les Français qui avaient donné l'exemple de l'union antifasciste. Donc pendant un temps, c'est l'international qui pousse le Parti communiste, et après, c'est le Parti communiste français qui peut-être s'est trouvé à l'aise dans cette nouvelle stratégie, parce qu'il faut le reconnaître, bon ça c'est un point, on pourrait y passer des heures à l'expliquer, mais c'est la base qui a imposé ce mot d'ordre. Il suffit de se rappeler la réaction au 6 février, en particulier la journée du 12, où les travailleurs sociaux, enfin les travailleurs, il n'y a pas que des... Si, la majorité était des travailleurs, mais il y avait aussi d'autres militants, socialistes et communistes, se sont réunis vers la place de la Nation, alors qu'ils avaient au départ deux points de réunion différents. Et c'est la base qui a lancé cette unité, d'où le succès après des initiatives au sommet des deux partis. Donc là, c'est évident. Et le Parti communiste a compris... le mot d'ordre, Thorez certainement a bien vu toute l'importance de ce revirement et il l'a défendu. Le Parti communiste en a tiré des gains absolument exceptionnels puisque de 9 députés aux élections de 36, il passera je crois à plus de 70 députés. Enfin bref, ça a été le grand essor du Parti communiste, l'enracinement dans la nation française, chose qui n'était pas réalisée avant.
Vous avez commis un joli lapsus en parlant de Maurice Thorez. Vous avez dit une personnalité anti-blématique.
Ah, j'ai dit anti-blématique. Bon, c'est peut-être une certaine réticence personnelle contre la personnalisation des partis. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas connu l'époque de Maurice Thorez, parce que je suis trop jeune, malgré mon âge, pour avoir vécu ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un culte de la personnalité, un culte de Thorez, au même titre qu'un culte de Staline, même si c'est peut-être un peu moins important. Mais il y a eu, effectivement, petit à petit... la mise en place de ce culte qui n'a jamais existé dans une autre période du Parti communiste, comme à l'époque de Thorez.
Dans l'immédiat, nous voulons que les riches payent, afin de soulager la misère des plus pauvres, donner du travail et du pain aux chômeurs, de réajuster les salaires ouvriers, de rétablir les traitements et indemnités des petits fonctionnaires.
Est-ce que je peux demander à un historien de faire le pont avec ce que l'on vit aujourd'hui côté de la Grèce ou même en France ?
C'est évident que quand on étudie un peu, moi je me suis replongé dans cette histoire des années 30 pour mettre un peu au point mes connaissances ou se rappeler un peu tout ce que je savais sur cette période, on est frappé par les analogies. C'est une période de crise, c'est une période où il y a un danger d'extrême droite, bon, qui est plus fort qu'actuellement, puisque l'extrême droite a déjà pris quand même plusieurs pays à cette époque. Il y a l'Italie de Mussolini, il y a l'Allemagne d'Hitler. C'est quand même lourd, ça, dans l'Europe de l'époque. Il y a donc un réel danger fasciste, comme actuellement, on peut déceler un danger d'extrême droite, en France particulièrement, puisque c'est quand même le pays où le poids de l'extrême droite est le plus fort actuellement, électoralement. Donc il y a beaucoup d'analogies, un certain discrédit des partis politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que le 6 février était né de l'affaire Stavisky, c'est-à-dire une espèce de magouille entre les milieux d'affaires et les milieux politiques, ce qui a eu des retombées sur le Parti radical en particulier, puisque beaucoup d'hommes politiques du Parti radical avaient des liens avec cet escroc Stavisky qu'on a retrouvé entre guillemets suicidé. On se doute bien que c'est pas un suicide, que c'est plutôt un règlement de compte. Mais il y a beaucoup d'analogies avec la période actuelle. Mais par contre, moi, ce qui me paraît complètement différent avec la période actuelle, c'est cet élan populaire, c'est-à-dire ce dynamisme des masses pour retrouver l'unité de la gauche et même d'aller au-delà, c'est-à-dire l'unité républicaine contre le fascisme, parce que c'est ça aussi le Front populaire, avec des mesures d'accompagnement. C'est pas simplement la dissolution des ligues et la victoire contre l'extrême droite, c'est aussi une avancée populaire, imposer une politique sociale qui n'a rien à voir avec celle qui était menée par les gouvernements de droite, auxquels participaient d'ailleurs les radicaux, puisque beaucoup de ces gouvernements ont été dirigés par les radicaux. Donc c'est vrai qu'il y a des analogies avec la politique actuelle, où il y a une réaction de beaucoup d'hommes de gauche, de citoyens de gauche, contre l'austérité imposée. Quand on regarde effectivement la politique économique de Flandin ou de tous les autres dirigeants de droite de l'époque, c'est une politique de déflation, c'est une politique de contre les salariés, mais là ça allait jusqu'à une baisse des salaires, une politique très dure pour le peuple français. Donc il y a beaucoup d'analogies. Moi ce qui me paraît différent, c'est que là le peuple était le premier à pousser et à réagir contre cette politique. Je suis malheureusement, en tant que citoyen d'aujourd'hui, là c'est plus l'historien qui parle, mais je suis moins optimiste pour la situation actuelle parce que je ne ressens pas ce besoin. Mais ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. La différence aussi, c'est que, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais étudié les chansons des années 30 et je me suis aperçu qu'il y a quand même un certain optimisme, une certaine joie dans ces années 30, même qui paraît des fois de l'inconscience quand on chante « Tout va très bien, madame la marquise », alors qu'à nos portes, il y a Hitler qui annexe les pays voisins. C'est un petit peu de l'inconscience. Mais il y a une espèce d'élan populaire, de joie populaire qui existe encore, et le Front populaire va la porter, je dirais presque à son paroxysme. Donc il faut espérer, sans doute aussi, dans la situation européenne actuelle, qu'un tel mouvement puisse se dessiner. Quand on voit certaines réactions à Syriza, la sympathie que suggèrent ces dirigeants grecs qui sont d'un style tout à fait différent des dirigeants qu'on voit partout ailleurs, qui nous semblent tous coulés sur le même modèle. On peut se référer à la période de 36 en se disant, après tout, il y a peut-être de l'espoir et voyons comment les choses peuvent évoluer aussi.
On peut faire des analogies, mais on n'en tire pas des conclusions hâtives.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que la situation actuelle nous pousse à des fois à revoir l'histoire de cette période avec des questionnements différents. Mais ça a toujours été le propre de l'histoire, c'est-à-dire elle évolue, elle n'est jamais figée. C'est le temps présent qui nous amène à poser des questions différentes ou à poser des questions différemment.
Merci à Alain Bergerat pour sa libre participation à cette émission réalisée avec la complicité de l'UMA Café de Nantes.